Bonjour à tous, vous écoutez Le Gratin, ici Yacine. Alors aujourd'hui, une émission qui va être consacrée à l'affiche cubaine. Donc je suis en compagnie de Régis Léger.
Bonjour.
Tu as écrit un livre, ou plutôt dirigé un ouvrage qui s'appelle Cuba Grafica, donc qui est en gros un peu plus de 100 ans d'histoire de l'affiche à Cuba. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de ce livre et comment toi tu as découvert l'affiche cubaine?
Ouais, c'est une longue histoire, mais... Ça a commencé à peu près à l'âge de 15 ans. C'était mon premier voyage avec mes parents. Ils m'avaient emmené à Cuba, on était parti une semaine là-bas. Et moi, en même temps que ça, je commençais des études d'art à Paris, à l'école Estienne. Et visuellement, à Cuba, j'avais été assez fasciné par les bayas, les panneaux de propagande qu'il y a le long des routes. Et j'avais gardé l'idée un peu débile de retourner là-bas et d'essayer de comprendre comment fonctionnait la propagande à Cuba. Un peu plus tard.
Qu'est-ce qui t'avait marqué dans ces affiches en particulier?
C'était leur carrière. Je sais pas, quelque chose de totalement différent que j'avais jamais vu auparavant. Un peu quelque chose de mystique aussi, parce que c'est quand même de la propagande révolutionnaire. Quelque chose qui n'a rien à voir avec notre pays, avec les affiches qu'il y a dans le métro. C'est ça qui m'intéressait. Et puis est né aussi un engagement politique, une volonté. Travailler l'affiche, c'est-à-dire que moi je suis graphiste de base, j'ai étudié à l'école des Gobelins, à l'école Estienne un peu avant, et très jeune j'ai voulu travailler l'affiche, notamment avec des graphistes qui ont formé un groupe qu'on a appelé Grapus dans les années 60-70, après mai 68, et c'est des graphistes qui ont essayé de révolutionner la politique à travers l'image. Donc moi très tôt j'ai voulu m'orienter vers cette voie, et l'affiche cubaine en fait c'était... un art qui n'a jamais été vraiment très reconnu. Il n'y a jamais eu de travail qui a été mené dessus. Pas d'exposition, pas de livre. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi il n'y a rien eu? Et on arrive aux années 2010, il faut aussi faire quelque chose, parce que c'est toute une génération qui va disparaître.
Quand tu dis qu'il n'y a rien eu de livre en français sur l'affiche cubaine, mais il y a quand même quelques bouquins sur les affiches révolutionnaires ou sur les affiches de cinéma cubain. En anglais, il me semble qu'il y a plusieurs ouvrages.
Qui ont été parus assez récemment.
D'accord.
Anciennement, il y a eu un bouquin dans les années 70, il y en a eu un dans les années 2000, effectivement, vers la Californie, qui a été publié. Il y a quelques parutions, mais jamais quelque chose d'ample comme j'ai pu faire, c'est-à-dire qui recouvre un siècle de graphisme cubain.
Voilà, donc c'était un petit peu la question que je voulais te poser. Donc l'apport que toi tu as, effectivement, c'est de faire une sorte de rétrospective complète, c'est-à-dire, comme je disais, il y a pratiquement plus de 100 ans d'histoire de l'affiche à Cuba, et aussi à travers ça, l'histoire d'un pays.
Voilà, c'est ça. En fait, quand tu me parlais des autres publications, généralement, l'affiche cubaine, on a tendance à l'étiqueter comme affiche politique. Or, c'est pas du tout ça. C'est même tout le contraire aujourd'hui. Et on a tendance aussi à l'identifier à la période de l'âge d'or de l'affiche cubaine, c'est-à-dire des années 70. Moi, ce qui m'intéressait à travers cette publication, c'était aussi de comprendre la genèse de ce graphisme et aussi ce qu'il en était devenu aujourd'hui. Et moi, quand je suis parti à Cuba, j'ai découvert justement cette nouvelle génération et j'ai vu qu'il y avait une tradition qui était encore en vie, quoi, qui perdurait. Donc moi... Tout début de mes recherches, c'était ça. Je voulais me focaliser sur la nouvelle génération et montrer qu'aujourd'hui, il y avait encore des graphistes qui travaillaient à Cuba et que ces gens n'étaient tous pas partis aux États-Unis ou vivre au Mexique.
Donc toi, dans le cadre de tes études de dessin, tu as fini par aller étudier à Cuba carrément?
Alors, ça a été un processus assez long, mais comme je te dis, depuis mes 15 ans, j'avais ça qui trottait dans
un coin.
Ouais, je m'étais dit, tiens, un jour, si j'ai rien à faire, j'aimerais bien partir là-bas. Surtout que je parlais pas espagnol. Et puis, j'avais envie de découvrir un autre pays. Et puis, surtout, une pratique de l'affiche différente que la mienne. C'est-à-dire partir loin du graphisme parisien assez hipster, très contemporain, très, très artiste.
Très formaliste.
Très formaliste. Et je voulais découvrir quelque chose de plus social et une pratique totalement différente avec une jeunesse aussi. C'est surtout ça qui m'intéressait, c'était vraiment être immergé dans une culture différente et comprendre une jeunesse différente aussi et vivre avec elle.
Tu es parti à Cuba. Là, du coup, au début, c'était plus pour étudier ou c'était vraiment dans l'idée de faire un livre ?
Mon idée première en partant là-bas, c'était retrouver l'ancienne génération de graphistes des années 70. Donc, je connaissais quelques images de cette fameuse âge d'or, mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que j'en avais discuté un peu autour de moi avant de partir à Cuba, en faisant mes recherches, en allant dans des bibliothèques, des librairies, et en allant voir des graphistes en leur disant « Est-ce que tu as entendu parler d'une nouvelle génération de graphistes cubains et où sont partis les anciens graphistes de l'âge d'or ?» Beaucoup de gens m'ont dit « Non mais... ne va pas à Cuba, ça sert à rien. Tous ces gens sont morts, sont disparus, et puis il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a plus d'argent à Cuba, il n'y a plus d'affiches. » C'était l'idée que j'en avais. Mais j'étais convaincu quand même qu'il fallait aller là-bas, parce que j'avais vu sur Internet un blog. Alors, il y a très peu d'informations sur Internet aussi, parce qu'à Cuba, Internet, c'est très compliqué. C'est-à-dire que les graphistes ne peuvent pas poster d'images sur Internet, parce que ça met un temps infini, et qui sont très limités en termes de connexion. Cependant, j'avais vu en fait des images de la nouvelle génération qui étaient sur un site internet mis en ligne aux États-Unis et qui parlait en fait de l'immigration des Cubains et de la relation qu'ils maintenaient entre leurs amis cubains qui étaient partis aux États-Unis et les amis cubains qui restaient vivre sur l'île. Voilà, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant tiens, il y a sûrement quelque chose à faire puisqu'il y a encore des nouvelles affiches qui sont créées. Et en regardant les biographies de chaque personne, je me suis rendu compte qu'il y avait une école qui revenait, une seule et unique école, c'était l'ISDI, l'Instituto Superior de Diseño Grafico. Donc c'est là-bas où je suis parti, en me disant, voilà, moi, ce qu'il me faut, c'est une carte d'étudiant, un visa, parce qu'à Cuba, on t'accorde qu'un mois pour vivre là-bas. Moi, j'avais besoin de beaucoup plus pour mener à bien mes recherches. Du coup, le statut d'étudiant me convenait.
Et puis, tu voulais pas vraiment étudier, en fait.
Je voulais pas tout étudier, c'est-à-dire que...
C'était plus pour le graphisme lui-même que pour les études. Enfin, tu étais déjà assez formé, tu pensais ?
C'est-à-dire que la différence technologique entre Cuba et la France, c'est pas du tout la même, quoi. Donc, aller étudier là-bas, en tout cas, si on veut vraiment avoir une formation technique, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, j'ai appris 10 fois plus. C'est-à-dire que j'ai appris, à imprimer mes affiches en sérigraphie. Et puis, je suivais des cours, oui, différents, mais des cours qui étaient liés à mes recherches. C'est-à-dire que j'avais vraiment demandé à ce que j'aille dans les cours d'histoire de l'art, les cours d'histoire du graphisme, comment faire une affiche à Cuba, les cours d'impression, ce genre de choses. C'est-à-dire que je ne suivais pas des cours généraux. Mais en tout cas, j'avais des cours qui pouvaient alimenter mes recherches que je montais en parallèle.
Et d'accord. Et cette culture de l'affiche, donc à Cuba, au sein d'une école qui enseigne le graphisme, est-ce qu'elle est vivante ? Est-ce qu'on étudie encore la culture ? Est-ce qu'on parle des anciens affichistes, de cette tradition ?
Malheureusement, non. C'est ça qui est tragique à Cuba. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est un peu une situation complexe, on va dire. Il y a un gros décalage entre les institutions et la réalité culturelle du pays. Depuis plusieurs années, il y a une sorte de bureaucratisation qui est arrivée dans toutes les institutions et qui les maintient. Et c'est le cas un peu de l'affiche cubaine. C'est-à-dire que, on va sûrement en parler après, mais dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, Cuba est tombée dans une crise qu'on a appelée la période spéciale. Et pour relever Cuba de cette crise, la première décision qui a été prise, ça a été l'ouverture au tourisme. Et qui dit ouverture au tourisme dit nouveaux besoins en termes de communication. Donc des logos, des identités visuelles, des publicités, des affiches. Donc en fait, la nouvelle génération qui est arrivée dans cette école, qui a été fondée en 86, donc à l'aube des années 90, les graphistes qui étaient formés pour les nouveaux besoins de communication de Cuba, et pas du tout pour maintenir cet état de la tradition de l'affiche cubaine.
Du coup... Ça a été une sorte d'enquête pour toi, ce voyage. Donc, tu as dû essayer de retrouver les graphistes et tu as dû aussi retrouver certaines images parce que du coup, il n'y avait aucune trace de certaines affiches.
Ça a été la galère la plus totale, mais ça a été vraiment une super belle aventure. Au début, je ne savais pas trop ce que j'allais faire là-bas. Je suis tombé un peu dans un pays que je ne connaissais pas, avec une culture que je ne connaissais pas, avec une langue que je connaissais pas, et puis j'étais tout seul, quoi. J'avais pas d'amis, j'avais rien du tout, quoi. Et puis on m'avait foutu dans une résidence étudiante. Alors, faut voir aussi la résidence étudiante, quoi. C'était un ancien bordel qui avait été transformé en résidence, avec des chambres où on était 12, 12 avec des lits superposés sur 3 étages, des toilettes qui marchaient pas, des cafards qui se baladaient un peu partout, pas d'air conditionné. Et puis en plus de ça, il y avait, on appelle ça un centre commercial juste en face de la résidence qui balançait du reggaeton à partir de 9h du matin jusqu'à 19h le soir, quoi.
T'es un spécialiste du reggaeton maintenant.
Ouais, plus salsa. Non, mais j'aime bien le reggaeton. De toute façon, c'est difficile de passer à côté. Mais tout ça pour dire que voilà, c'était une ambiance assez particulière et qu'il a fallu aussi s'adapter à tout ça, quoi. Une fois adapté, tout seul, j'arrivais pas à faire les entretiens. J'arrivais pas à aller voir les graphistes un à un. Parce que mon espagnol n'était pas à assez bon niveau, quoi. Au bout de 2 mois, c'était pas assez bon. Donc en fait, je suis allé voir ma prof d'histoire du graphisme, qui était une sorte de prof principale, en lui disant, bon, bah écoute, elle s'appelait Flore de Lis. Je dis, Flore, il faudrait que tu me présentes un étudiant de mon âge, cubain, puisque bon, de toute façon, j'étais le seul étranger dans cette école, qui puisse m'aider à faire mes recherches et qui serait intéressé à monter un projet pour la France sur l'histoire du graphisme. Elle me dit, ok, écoute, je vais penser à ça, reviens dans 2 jours, je vais te présenter un garçon qui s'appelle Auré Félix. Et c'est devenu mon meilleur pote, et c'est avec lui en fait qu'on est allé voir un à un tous ces graphistes. Donc au début, effectivement, c'était assez compliqué, parce que même les étudiants n'avaient pas vraiment connaissance du graphisme cubain. C'est-à-dire qu'ils étudiaient ça avec des références étrangères, bizarrement la publicité, ce qui est assez étrange dans un pays socialiste. C'est-à-dire que leur référence, c'était ça, avant tout.
C'est-à-dire quelles références? Par exemple, des références européennes
Ouais, les dernières pubs de Nike, Adidas, ce genre de choses.
D'accord.
Plutôt que les affiches qui sont présentes dans mon bouquin.
D'accord, ok, dingue, étonnant.
C'est hallucinant, ouais. Du coup, bah, il a fallu faire ce travail de recherche aussi à leur place. Et ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est qu'on a demandé à tous les étudiants et aux profs au sein de l'école de nous donner sur clé USB toutes les affiches qui traînaient sur leur ordinateur. Donc on a rassemblé dans des dossiers et on a commencé à voir, tiens, bah, y a ce graphiste qui a fait, je sais pas, 20 affiches. On va essayer de le rencontrer. Ce graphiste, il en a fait 20. Bon, ok, lui aussi, on le met sur la liste. Puis petit à petit, on avait une liste de personnes à rencontrer. Donc pas toujours évident en fait, quand ces gens ont disparu depuis des années ou ont arrêté leur activité depuis aussi 10-20 ans, quoi. Donc il a fallu en fait aller les chercher un à un et puis discuter avec eux, notamment avec l'aide d'Auré Félix, parce que sinon moi je comprenais pas tout, les enregistrer, les filmer, j'ai pas mal de films là-bas sur les entretiens que j'ai fait. Et puis bah voilà, petit à petit remonter toute cette histoire et puis découvrir des affiches au gré de nos rencontres.
D'accord, oui, donc ça a été un vrai travail de recherche, puis de synthèse après pour produire le bouquin.
Ça a pris beaucoup de temps, ça ne s'est pas fait en une fois. Moi, je suis resté à peu près une dizaine de mois la première fois. Après, il a fallu que je rentre, j'avais besoin de sous. Et puis, je suis retourné plusieurs fois, un mois, 2 mois, afin de continuer le projet. Donc, au début, ce n'était pas du tout parti pour un livre, c'était parti pour une exposition. J'avais eu une bourse à travers la mairie de Paris, Paris Jeune Aventure. Donc on m'avait accordé un peu de sous pour acheter ces affiches et pouvoir les ramener en France. Et grâce en fait, à cette petite collection, qui n'était pas énorme à la base, j'ai pu les présenter à différents graphistes français, à des organisations, à des institutions, pour essayer de faire bouger un peu les choses. Donc petit à petit, j'ai donné des conférences, je donnais des cours. Ça a fait bouger les choses. J'ai eu des articles qui sont parus dans la presse spécialisée. Et puis un éditeur qui m'a contacté, les éditions L'Échappée. Et c'est comme ça qu'on a mis en place ce projet de bouquin. Donc comme tu le disais, au départ, moi, j'avais vraiment tout le contenu, toute l'histoire. J'avais toute la trame du livre. Mais le plus gros, c'était les images. Parce qu'à Cuba, il n'y a pas le matériel pour numériser ces affiches. Donc c'est un travail qui n'a jamais été fait. On va dire, en fait, la moitié du travail dans ce bouquin... ça a été la numérisation des images et ça a été les retrouver. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce qu'aujourd'hui, quand on veut monter un livre, il suffit d'envoyer des mails, je sais pas, à 15-20 personnes en leur demandant « Tiens, t'as pas une ou deux affiches que je pourrais intégrer à ce bouquin ?» Et puis ça se fait comme ça. Là-bas, si on veut communiquer avec les graphistes cubains, il faut se déplacer à Cuba. Il n'y a pas d'Internet. Donc c'est super compliqué. Et en plus de ça, ils ne peuvent pas envoyer leur image à travers Internet.
D'accord, il faut qu'ils te donnent les affiches en main propre, que tu ailles les photographier et qu'après que tu ailles leur rendre.
Voilà, ça aussi, ça a été l'autre bordel. C'est qu'il a fallu retrouver les affiches. Et des fois, quand des graphistes nous parlent, ah, tiens, je me rappelle de cette affiche en telle année. Ah oui, mais elle est où ? Ah bah ça, je sais pas. Donc il faut traverser toute la Havane à la recherche d'une affiche. Des fois, aller dans les imprimeries, demandant, tiens, on peut aller voir dans les archives qu'est-ce qu'il y a. Puis des fois, en demandant les adresses des anciens imprimeurs pour voir effectivement si chez eux, il y a encore des affiches. Et voilà, c'est comme ça. Mais il en manque plein. Le problème, c'est qu'il y a une reconnaissance du graphisme cubain qui est arrivée très récemment. C'est très récent. Même les institutions là-bas à Cuba ont des archives qui ont débuté il y a 10 ans, alors que le graphisme cubain a plus d'un siècle.
Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Le Gratin, donc une émission qui est consacrée à l'affiche cubaine, donc évidemment musique cubaine à l'honneur. Donc là, on a écouté un groupe des années 30 qui s'appelle l'Icona Cuban Boy, et donc le morceau c'était Tabou, et j'ai choisi ce morceau parce que c'est un morceau assez connu qui a beaucoup été repris, et là c'est la version originale, donc c'est toujours intéressant d'écouter l'original. Voilà, donc je suis toujours en compagnie de Régis Léger. Donc on parle de son livre Cuba Grafica, donc l'histoire de l'affiche cubaine, plus de 100 ans d'affiches à Cuba, et on va parler plutôt du début. On est au début du 20e siècle, c'est la République de Cuba, donc sous domination américaine. C'est plutôt une ère prospère. Comment va se développer à ce moment-là la culture de l'affiche ?
Alors je fais encore un saut en arrière. Sous domination espagnole, et ensuite c'est passé sous domination américaine. Ensuite il y a eu une petite guerre d'indépendance, et en fait c'est les Américains qui sont arrivés à Cuba et qui ont en fait mis en place comme un, ouais, un statut de, enfin, d'occupation. C'était pas vraiment une occupation, mais en tout cas, ils avaient mainmise sur toutes les entreprises et sur le commerce. Non, enfin, vraiment, l'affiche et le graphisme à Cuba s'est développé sous l'ère espagnole, avec l'arrivée de nouvelles techniques d'impression, comme la lithographie qui était présente à Cuba avant même d'arriver en Espagne. Les premières traces de graphisme à Cuba, en fait, elles étaient présentes sur les boîtes de cigares et sur les étiquettes de rhum. C'était en fait des produits qui servaient ensuite à être vendus en Europe. Les produits de luxe qui étaient destinés à la bourgeoisie espagnole, française. Et du coup, en fait, c'était des images qui collaient au style graphique européen de l'époque. Du coup, les graphistes cubains avaient une influence qui venait direct d'Europe. Certains allaient étudier aux Beaux-Arts de Madrid, par exemple, puis revenaient à Cuba et travaillaient dans les ateliers d'impression. C'est-à-dire que le statut de graphiste n'était pas vraiment encore décrété comme graphiste. On les appelait des artistes. Il y avait des typographes et puis il y avait les imprimeurs.
Et donc, il y a eu toute une production, effectivement, pour des produits de luxe, des cigares, du rhum, enfin des choses comme ça.
En fait, tous les produits un peu qui tournaient autour de la canne à sucre. C'est ça, le commerce principal de Cuba, c'est la canne à sucre.
Mais à côté de ça, c'est développé quand même une production de graphique autour de revues, puis après d'affiches. Là, c'est la publicité, en fait, qui a été le point de départ de cette tradition de l'affiche.
C'est vrai que l'affiche a commencé plus par la publicité, mais les premières formes graphiques qui étaient des formes commerciales étaient introduites dans des magazines. Et il y a eu tout un tas de graphistes qui ont débuté en fait leur carrière en étant graphistes pour des revues spécialisées de mode, de culture essentiellement, et des revues qui avaient beaucoup de connexions avec l'étranger. À ce moment-là, Cuba n'était pas refermé comme ça l'est aujourd'hui à travers un blocus, mais avait des connexions aux États-Unis, avait des connexions en France ou en Espagne. Donc beaucoup de gens qui travaillaient pour ces revues travaillaient aussi à l'extérieur de Cuba et apportaient une touche graphique, artistique qui venait de l'extérieur.
D'accord, donc il y avait beaucoup d'échanges commerciaux entre Cuba et les pays extérieurs.
Ah, énormément, en fait c'était un des premiers ports commerciaux mondiaux. Tout la marchandise arrivait en Amérique passait par Cuba. Donc Cuba était un peu une plateforme internationale où se passait pas mal de choses, où s'échangeait énormément de choses aussi, et où toute la sphère culturelle était présente aussi.
Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment va se développer l'affiche dans ces années-là ?
Bon, en fait, elle arrive par différents domaines. Tu parlais de la publicité. Effectivement, bon, voilà, l'affiche se développe aussi à travers toute la société de consommation qu'il y avait à cette époque, qui était assez forte, quoi, assez importante, même plus qu'aux États-Unis d'ailleurs, puisqu'en fait les Américains ont fait de Cuba un peu une zone d'expérimentation de leurs produits. C'est-à-dire qu'ils arrivaient avec, par exemple, les voitures, puisque c'est comme ça qu'à Cuba on retrouve des voitures qu'il n'y a pas aux États-Unis, puisqu'il y avait plein de concepts de cars qui étaient testés à Cuba, à La Havane, et du coup ces voitures aujourd'hui sont restées sur l'île cubaine. Mais en fait beaucoup de produits, et notamment des nouvelles machines pour impression, arrivaient à Cuba et étaient testés auprès de la population, c'est-à-dire voir si ça marchait bien et tout, et puis la publicité aussi. On réalisait des publicités là-bas, qu'on testait sur la population cubaine pour voir si les slogans fonctionnaient bien, et ensuite on apportait ça aux États-Unis, on développait le tout là-bas. Donc la publicité, effectivement, tu parlais, l'affiche de cinéma. Alors, l'affiche de cinéma, pas celle qu'on connaît aujourd'hui, mais les graphistes travaillaient pour des films étrangers. D'ailleurs, je te parlais, la touche cubaine n'était pas encore arrivée sur l'île, mais on travaillait pour des films argentins, mexicains notamment, et on mettait en avant les portraits de ces stars, c'était l'époque du Star System. Donc les graphistes
cubains... L'époque des studios, en fait.
Ouais, exactement. Il y avait même les Italiens qui étaient présents à Cuba, qui venaient faire leur communication là-bas. Quelques boîtes de production françaises aussi. Voilà. Et beaucoup de gens profitaient aussi de cette main-d'œuvre bon marché pour réaliser leur communication à Cuba. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée de la sérigraphie avec les affiches politiques, les pasquines.
Les pasquines, ça c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer
Alors, une pasquine, c'est une affiche politique. Qui date d'avant la Révolution, donc de la période américaine. qui est apparu dans les années 40-45, en fait, avec l'arrivée de la sérigraphie sur l'île. En 43, il y a eu une exposition qui était organisée par un groupe d'artistes américains et qui cherchait en fait à exposer les qualités plastiques et graphiques de la sérigraphie à travers le monde. Donc, en fait, ils avaient monté des expositions itinéraires et ils s'arrêtaient dans les différents pays qui étaient notamment sous domination américaine en Amérique latine, donc Puerto Rico et ensuite Cuba. Ils ont monté cette exposition qui a été plutôt rejetée par tout le milieu de la culture artistique, jugeant en fait cette technique trop proche du côté commercial. C'est-à-dire que la sérigraphie était employée à l'époque pour imprimer, je ne sais pas, sur des voitures, sur des plaques de métal, sur ce genre de choses, ça servait à la publicité, mais pas du tout en fait à imprimer des œuvres artistiques. Et en fait, c'est la politique qui s'est resservie de cette technique d'impression pour imprimer sa propagande. Donc chaque candidat, en fait, là-bas, avant, il y avait des élections qui étaient vachement importantes, et il y en avait assez souvent. Il y avait des candidats, par exemple, sur les élections locales, dans chaque pâté de maison, tu avais un candidat. Donc chaque candidat avait sa propre affiche, et pour qu'elle soit imprimée, c'était en sérigraphie que ça se passait. Parce que la sérigraphie, ça permet d'éditer à très peu d'exemplaires. Et puis, c'est une technique d'impression traditionnelle, donc tout le monde peut s'y mettre en apprenant quelques bases. Donc, il y a eu des petits ateliers de sérigraphie qui sont montés un peu partout dans les villes. Et on imprimait donc pour les hommes politiques, on imprimait aussi pour les champions de baseball. Chacun avait ses équipes et du coup, on imprimait des supports graphiques à leur effigie.
D'accord, donc ça c'est un des débuts de la tradition de l'affiche cubaine, on va dire. Parce que cette idée de la figure du visage dans l'affiche cubaine, c'est quelque chose qui a l'air assez important en fait.
C'est ça, ouais, c'est assez important. C'est aussi en fait une façon graphique de traiter un rendu. C'est-à-dire que c'est par des couleurs très franches, très, très plates. Et c'est des aplats de couleurs qui sont imprimés successivement l'un après l'autre et qui forment en fait l'image. Donc en fait, ça induit un style graphique direct, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la photo, enfin, c'est très limité, donc on passe par le dessin, c'est pour ça qu'on dessinait les portraits des candidats, et puis tout était assez charté, c'est-à-dire que sur une pasquine, tu as le nom du candidat, comme une affiche politique aujourd'hui, son portrait, le numéro du bureau de vote, et puis le logo du parti. En fait, malheureusement, sur toute cette production qui était énorme, c'était vraiment, quand on discute avec les anciens, il y en avait partout des pasquines, partout, sur les arbres, sur les palmiers, sur les devantures des maisons, dans les commerces, il y en avait vraiment partout. C'est une production qui a pas été gardée dans des archives. Pourtant, on parle de milliers et de milliers d'images pour une petite île avant qui possédait à peine 10 millions d'habitants. Il y a très peu de traces de ces images. Moi, les quelques-unes que j'ai pu retrouver qui sont présentes dans ce livre, je les ai retrouvées en Équateur. C'est un Cubain qui est parti vivre là-bas, qui en avait quelques-unes et qui me les a envoyées par mail.
D'accord. Et il y a quelque chose d'étonnant, c'est que ces pasquines, elles étaient imprimées avec beaucoup de couleurs. Alors, on sait qu'en sérigraphie, le nombre de couleurs est limité quelque part. Mais bon, 7-8 couleurs pour une affiche électorale, ça paraît invraisemblable.
7-8 couleurs, en plus avec des encres assez particulières, parce qu'il y avait des encres qui brillaient, qui devaient résister aux UV, parce qu'à Cuba, il y a beaucoup de soleil. C'était une période où techniquement, il y avait pas mal de choses qui se passaient, parce qu'il y avait il y avait de l'argent, c'était une époque qui était plutôt stable économiquement avec les Américains et le commerce avec les États-Unis. Donc tout ça se passait plutôt bien, et voilà, il y avait une recherche perpétuelle entre les graphistes et les imprimeurs. C'était vraiment un travail qui se faisait en lien entre chaque métier.
Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ces grands supports d'affiches là ?
Les bayas.
Les bayas. Est-ce que tu peux expliquer comment ils sont présents dans l'île et leur importance ?
Alors les bayas, en fait, c'est tout simplement des gros panneaux publicitaires qu'il y a à peu près partout sur l'île et sur lesquels étaient présents les affiches pour les grandes marques comme Coca-Cola, comme Pepsi, comme ce genre de choses. Après la Révolution, donc on est passé d'une société de consommation à une société socialiste. Du coup, toute la publicité a dégagé de l'île. Donc ça a été décrété dans 61, on en reviendra peut-être après. Ouais. Mais les bayas sont restés en place et c'est le gouvernement cubain qui les a récupérés pour sa propagande. Mais en fait, c'est les anciens supports de publicité qu'il y avait avant la Révolution.
Et alors, ces supports-là, ils étaient imprimés avec quelle technique ?
Alors, c'était de la sérigraphie, parfois, ou c'était peint directement à la main. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est toujours comme ça, c'est toujours de la sérigraphie parce qu'il n'y a pas les grosses machines pour imprimer. Donc, soit on découpe en fait l'affiche en plusieurs parties, généralement 12, pour que ça soit une affiche de 6 mètres, on la divise en 12, et puis on imprime des panneaux en sérigraphie qu'ensuite on va coller. Alors, c'est pas de la colle, hein. C'est de la patate écrasée qu'on va foutre sur l'affiche. En fait, ça colle. D'accord. On trouve toujours des astuces à Cuba parce qu'il n'y a pas de sous et puis il n'y a pas le matériel qui arrive. Donc, il y a toujours des petits remèdes, il y a des petites solutions pour trouver d'autres produits, quoi.
Donc, les affiches chantent la patate, c'est ça que tu me dis.
J'ai jamais reniflé une affiche sur un mur, mais bon, ça doit avoir une odeur spéciale. Ou alors, en fait, on découpait l'affiche en plusieurs bandes. Et puis, par bande, en fait, les peintres reproduisaient ça sous forme de bandes qu'on venait coller les unes à côté des autres.
C'est quand même un travail de fou de produire des affiches aussi grandes en sérigraphie.
Ah ouais, c'est un travail de fou. J'ai pas pu aller dans les ateliers parce que j'étais étranger, malheureusement. Et que, bon, ça concernait la propagande, donc on m'a pas laissé rentrer. Mais par contre, j'ai pu en récupérer une que j'ai dans ma chambre qui fait 6 mètres et elle est pliée sous mon lit.
En 1952, il y a un coup d'État à Cuba, donc un dénommé Batista prend le pouvoir. Est-ce que tu peux un petit peu raconter cet épisode d'histoire qui va être mené un peu à la révolution ?
Bah, c'est ça, en fait, Batista arrive. Bah, alors, Batista était un Cubain, si tu veux, qui était manipulé aussi par les États-Unis et qui représentait à Cuba toutes les forces économiques américaines qui étaient implantées sur l'île. Dans différents types de commerce, c'est-à-dire que les Américains avaient décidé de faire de la Havane le Las Vegas. Ils avaient déjà tout planifié. C'est-à-dire que tu as même aujourd'hui les arrivées électriques qui étaient destinées à construire des casinos. Voilà. Donc ils voulaient faire de Cuba vraiment la première destination touristique des États-Unis. Et c'est ce qui se passait. Enfin, si tu regardes encore en te baladant dans les rues de la Havane, tu retrouves énormément de traces de cette période qui a été très luxuriante. Avec des constructions complètement hallucinantes, du type un peu New York. Donc voilà, Batista est arrivé au pouvoir par la force, soutenu par le gouvernement des États-Unis. Une année plus tard, il y a eu les prémices d'une révolte qui était l'attaque de la caserne de la Moncada, qui est à Santiago de Cuba, qui est à l'opposé en fait, de la Havane, par Fidel Castro. Son frère et différentes figures de l'opposition. Ils ont essayé d'attaquer cette caserne et malheureusement, ça a échoué. C'était un coup d'État qui a échoué. Ils ont été placés en prison. Beaucoup ont été tués et Fidel Castro a écrit un livre qui est devenu célèbre à Cuba. C'était l'histoire Maquitra. Il est parti vivre, enfin, il s'est exilé au Mexique et c'est au Mexique qu'il a monté en fait, la révolution cubaine. Avec le Che qui l'a rejoint à l'époque et qui est parti en bateau à travers le Granma jusqu'aux côtes cubaines. Et c'est comme ça qu'en fait est née la révolution petit à petit jusqu'en 59.
Radio Campus Paris 93.9. Vous écoutez Le Gratin, donc une émission qui est consacrée à la fiche cubaine, donc toujours programmation musicale cubaine. Donc la Pérez Prado, célèbre chef d'orchestre cubain qui s'est exilé au Mexique, qui a fait plutôt carrière à l'étranger. Voilà, c'était le morceau Cayetano. Donc je suis toujours en compagnie de Régis Léger, le spécialiste français de la fiche cubaine. Donc là, la révolution de Fidel Castro est arrivée, donc il prend le pouvoir et il va complètement bouleverser l'île et il va créer tout un tas d'institutions. J'ai l'impression qu'il y a tout un délire d'institutions là-bas à Cuba, c'est-à-dire qu'il a créé des institutions pour tout, et notamment des institutions qui servaient à faire la propagande de son régime, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand Fidel Castro arrive à La Havane, une des premières réformes qu'il va mener, c'est la nationalisation des entreprises. Donc les Américains qui étaient sur le sol cubain vont avoir le choix ou non de voir leur entreprise nationalisée. Beaucoup décident de partir, puis il y en a, il y a les Cubains qui restent en fin de compte. Et ces entreprises donc deviennent des entreprises nationales. Et comme tu dis, il y a eu toute une avalanche de sigles qui arrivent et des organismes qui sont créés pour différentes catégories. Et dans la publicité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près une 10-15 agences de publicité différentes, détenues majoritairement par des Américains. Et jusqu'en 61, à peu près, ces agences continuent à fonctionner de manière indépendante, puis en fait sont regroupées sous une même agence. Et ensuite, cette agence devient la CORE, qui est la Commission d'orientation révolutionnaire, et qui est l'institut de propagande, si tu veux, cubaine, à travers lequel sont fabriquées toutes les affiches.
D'accord. Et il va se passer un truc quand même assez étrange, c'est qu'ils vont interdire la publicité.
Ouais, c'est ça. En fait, ça s'est fait de manière assez réfléchie. Ça s'est fait petit à petit en coordination avec différentes institutions, différents ministères aussi, parce qu'en fait c'est Che Guevara qui est à l'époque ministère du commerce qui décide d'arrêter la publicité. Alors il y a un mythe, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais il a décrété un jour sans publicité à La Havane, c'était en 1960, et voir à peu près la répercussion qu'il y avait en fait sur la population. Et vu qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien qui se passait, ils ont décidé d'arrêter la publicité et transformer les espaces publicitaires en espaces de propagande. Donc ce qui est assez étonnant dans le livre, c'est que j'ai pu retrouver en fait des affiches qui datent de cette période 59-61, ou alors on ne sait pas trop quoi faire avec la publicité. On voit que c'est quelque chose qui embarrasse, parce qu'il ne colle pas vraiment aux idées de la Révolution, mais en même temps on en a besoin, parce qu'il y a encore des entreprises qu'il faut faire tourner, et puis bon, on était dans un système qui était tellement capitaliste que bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Et alors, c'est assez marrant de retrouver ces publicités qui nous vendent des cigarettes cubaines, qui nous vendent du rhum cubain, tout en faisant la promotion de la révolution cubaine, juste à côté. Voilà, donc c'est des images qui sont assez incroyables, de propagande, mais en même temps commerciale. Enfin, il y a les deux à la fois sur ces affiches. Et puis, on en arrive en 61, où là, effectivement, tout s'arrête. Et c'est un témoignage assez important que j'ai eu de Mirta Muniz, qui, avec le Che à cette époque-là, dirige vraiment toute la transition du système commercial au système de propagande. C'est-à-dire comment les graphistes qui travaillaient avant dans les agences de publicité vont aujourd'hui travailler pour le système cubain, la propagande, et quel style graphique on utilise aussi pour ces images. Parce que ça, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que on arrête la publicité, mais il faut aussi trouver une nouvelle forme graphique qui va parler à la population et qui va aussi révolutionner la forme des choses.
Alors justement, est-ce qu'on peut définir le style de l'affiche cubaine de cette époque ? Parce qu'il y a deux éléments, je trouve, qui sont très importants. Donc deux points que je vais te demander de définir, c'est un, l'esthétique cubaine, et deux, le sens. C'est deux aspects qui se mélangent, qui sont liés étroitement, mais qui sont importants.
Alors, en fait, au début, on ne sait pas trop comment faire. C'est un peu le problème. On ne sait pas trop vers quoi se tourner. Donc, on essaye automatiquement de se tourner vers l'URSS, de voir ce qui se passe là-bas. Effectivement, pas de publicité. On va aller voir la propagande qui s'y fait. Et du coup, les graphistes cubains optent pour un graphiste qu'on appelle le brazo fuerte, le bras fort, c'est-à-dire l'homme viril qui, à bout de bras, tend sa, sa machette ou alors son arme, son fusil, pour se battre contre les Américains.
C'est un peu la caricature de la propagande communiste.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont tombés en fait dans la caricature de cette propagande. Et ils sont très vite rendus compte qu'en fait c'était pas le bon style à adopter. En fait, ça correspond plus ou moins à l'époque du débarquement des Américains sur la baie des Cochons. C'est-à-dire que c'est une attaque qui a échoué de la part des États-Unis. Et du coup, il y a tout un tas d'affiches qu'on a appelées les affiches du style Brazo Fuerte qui sont créées. Et ces affiches qui sont assez, on va dire, assez simples en termes de messages, hein, qui ne disent pas grand-chose, à mort les Américains ou à bas les Yankees. Donc, au niveau du contenu, c'est très pauvre, et au niveau du style graphique, ça l'est aussi. Et petit à petit, il va y avoir une période qui va durer 5 ans, on va dire, de recherche graphique, où vraiment les institutions cubaines donnent carte blanche aux graphistes pour s'exprimer et pour trouver des nouvelles solutions.
Et donc, c'est à ce moment-là que le style cubain va se former et... Voilà. Alors, dans ton livre, tu parles à un moment donné de quelque chose qui m'a étonné. Cuba produit beaucoup d'affiches de cinéma. Donc, il y a une institution qui est chargée de produire des affiches de films. Alors, tous les films qui sont distribués à Cuba, des films étrangers, donc européens, russes, etc., sauf des films américains, j'imagine. Donc, dès qu'ils arrivent à Cuba, ils ont une affiche qui est faite exprès. Et dû aux restrictions, parce que ça j'aimerais que tu en parles, des restrictions de matériel, ils sont obligés d'imprimer les affiches, mais avec seulement 65% de la surface de l'affiche doit être imprimée, parce qu'on doit garder suffisamment d'encre et utiliser moins d'encre possible en fait.
C'est ça. En fait, c'est l'ICAIC. L'ICAIC, c'est l'Institut du cinéma cubain. C'est la première institution qui a été créée après la Révolution, en 59. C'est pour dire que le cinéma à Cuba est quelque chose de très très important, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont au cinéma encore aujourd'hui. Il y avait des centaines de cinémas à La Havane qui ont aujourd'hui été fermés, mais il y a encore des très grosses salles à Cuba. Et le cinéma, c'est vraiment une pratique culturelle courante pour la population. Et du coup, très tôt, il a fallu que les graphistes cubains travaillent pour cette institution. Et c'est une institution qui a laissé libre cours à l'expérimentation. De la part de chacun, chaque graphiste a pu vraiment trouver sa propre patte pour créer ses images. Donc tu vas avoir des gens comme René Medeiros qui vont aller plus vers un côté, on va dire, pop. Également, René Ascoui qui lui va travailler plus la photo. C'est un des rares à travailler la photo. Ou Munoz Bash qui lui va aller plus vers une image...
Un peu cartoon,
on peut dire ça. Voilà, donc en fait, c'est assez facile de distinguer chaque graphiste à travers leur style graphique. Et du coup, comme tu disais, il y a eu en fait cette contrainte de réaliser en fait pour chaque film projeté sur le sol cubain la propre affiche du film réalisé par un graphiste cubain. Donc en termes de production, ça va donner quelque chose d'assez incroyable, environ à peu près plus d'une affiche par semaine dans les années 70. Aujourd'hui, on en est à, je sais pas, en termes de création, 4, 5 dans l'année, quand on en était à une par semaine dans les années 60-70. Du coup, c'était une forte période d'ébullition graphique. Il y avait des trucs incroyables qui se passaient. Il y avait différents styles qui s'imbriquaient les uns par rapport aux autres. Le style pop, j'en parlais. Beaucoup d'influences art nouveau, art déco, qui ont été justement utilisées... à des fins plus psychédéliques. Et puis, tu avais un côté beaucoup plus radical aussi, avec des formes super, super épurées. Ça, c'est le cas de Nico, par exemple, qui travaillait uniquement avec des symboles et des couleurs très, très tranchées.
D'accord. Et est-ce que dans cette esthétique de l'affiche de film, il y a une volonté de rupture par rapport au code de l'affiche de film, ceux qui sont prédominants, qui est l'affiche de film américain ?
Ah, totalement. C'est-à-dire qu'une des directives qui a été lancée par l'ICAIC à l'époque, c'était de ne pas mettre en avant les
vedettes.
Les vedettes, ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est de tâcher de l'affiche hollywoodienne qu'il y avait à l'époque et de trouver en fait, des images plus poétiques qui se détachaient vraiment du film pour laisser cours à l'imagination du spectateur et puis imaginer c'est la propre vision qu'il pouvait porter sur le film. Donc un regard beaucoup plus novateur beaucoup plus détaché en fait que le film, c'est-à-dire ne pas sortir une image du film et puis l'art dessiné ou dessiner les deux acteurs principaux, mais vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus imaginatif.
À l'époque se développe une sorte de relation assez étonnante entre l'affiche cubaine et l'affiche polonaise. L'affiche polonaise a une influence sur l'affiche cubaine.
Ouais, énormément. L'affiche polonaise, c'est une des grandes écoles
de l'affiche,
à côté de l'affiche cubaine durant cette époque, hein, les années 60-70. Et du coup, il va y avoir quelques échanges quand même assez rares. Hein. C'est pas énorme. Je crois qu'il y a 3-4 graphistes cubains qui partent étudier à Varsovie sous l'ajout de Tomaszewski, qui est un très grand graphiste polonais. Et puis, il va y avoir quelques échanges en fait, de graphistes polonais qui vont venir donner des conférences ou des workshops aux graphistes cubains. Mais à chaque fois, en fait, on va se rendre compte que quand il y a le passage d'un graphiste étranger, ça va énormément marquer la production. Bon, qu'il soit polonais, qu'il soit suisse. Par exemple, il y a eu Fukuda, qui est un graphiste japonais qui est passé à Cuba dans les années 90. Et il y a eu des affiches qui ont adopté son style juste après.
Voilà. D'accord. Donc, de temps en temps, l'affiche cubaine est influencée par l'extérieur. Mais en fait, c'est assez rare. Hein.
Bah, c'est surtout que Cuba est un pays très fermé. Je dis pas fermé, enfin politiquement, je parle en fait de, c'est une île, donc géographiquement c'est compliqué d'avoir des échanges avec l'étranger, et puis d'autant plus qu'en 1962 est voté le blocus économique sur Cuba, donc c'est compliqué de faire voyager des graphistes, des artistes. Du coup, il y a peu d'échanges effectivement avec les autres pays, et le graphisme cubain en fait vit du graphisme cubain et s'inspire du graphisme cubain. C'est un peu ça la spécialité aussi de l'affiche cubaine, c'est qu'elle s'inspire d'elle-même. Elle va très rarement voir ce qui se passe ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de source d'information. Quand les graphistes doivent réaliser des affiches de solidarité internationale, souvent, ils vont aller voir les étudiants étrangers qu'il y a dans les campus pour leur demander tiens, t'as pas des magazines, t'as pas de la documentation à me donner, comment c'est dans ton pays, la typographie, la calligraphie. Comment on dessine un dragon, ce genre de choses, qui vont ensuite resservir à fabriquer leur image.
D'accord, parce qu'à un moment donné, le gouvernement cubain essaye de mettre en place toute une logique de propagande, mais vers l'extérieur du pays, vers les autres pays d'Amérique latine, ça c'est quelque chose d'important. Cuba est un peu une sorte de tête de pont vers la communication graphique vers les autres pays d'Amérique latine. Mmh, mmh.
Ça c'est la création de l'OSPAL, effectivement. L'OSPAL, c'est l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Donc c'est un organisme qui va soutenir en fait toutes les luttes qu'il y a à travers le monde, donc des luttes sociales et puis des luttes qui concernent la décolonisation ou des luttes contre les dictatures qui sont en place, notamment au Chili ou dans d'autres États. Et du coup, les graphistes cubains vont avoir à charge de réaliser des affiches qui sont traduits en 3 ou 4 langues, jusqu'à l'arabe, je crois, 4 langues, et qui sont envoyés à travers le monde pour soutenir et puis pour sensibiliser à ces combats.
L'affiche cubaine va un petit peu circuler par ce biais-là ?
Justement, à travers l'OSPAL, ça va être une des premières fois où elle va réussir à voyager, elle va voyager à travers différents pays surtout, et à travers une revue, qui est la Tricontinentale, qui était édité jusqu'à 50 000 exemplaires à l'époque. Aujourd'hui, elle existe toujours, hein, mais pas avec ce nombre de parutions. Et elle était traduite jusqu'à 4 langues, ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à l'arabe. Et les graphistes avaient en charge de réaliser une affiche qui était pliée et insérée à travers cette revue, et puis ensuite envoyée dans différents pays du monde. Donc les graphistes cubains, à partir de cette époque-là, voient leur création s'ouvrir à l'étranger, à l'international. Et du coup, graphiquement, ça a un impact visuel sur leur création. C'est-à-dire qu'ils se concentrent plus sur l'image que sur la typographie. Et l'image devient quelque chose de central dans l'affiche. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait y avoir des images qui étaient composées d'une typographie assemblée à une image. Et à partir de ces années-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il va y avoir une image qui va prendre le dessus sur la typographie et le texte, c'est quelque chose d'anecdotique qui va se retrouver en bas de l'affiche.
Donc l'image doit faire sens très fortement.
Très fortement, puisqu'elle doit parler à différentes cultures, à différents pays.
D'accord. Mais on retrouve toujours les mêmes parties pris graphiques, l'esthétique cubaine, c'est-à-dire très colorée, ce côté psychédélique qui va se diffuser un peu dans le monde. Est-ce que, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'à ce moment-là, l'affiche cubaine a été un peu remarquée, peut-être dans les milieux graphiques, etc., qu'on a su qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une effervescence sur le plan graphique à Cuba dans les années 70.
Oui, c'est ça. Il y a eu une connaissance de la part des graphistes qu'il y avait quelque chose qui se passait à Cuba durant les années 70. Mais comme je te disais, les graphistes cubains ne pouvaient pas circuler comme ils souhaitaient, enfin, ne pouvaient pas voyager tout simplement. Du coup, très peu d'échanges, très peu d'expositions qui sont montées à l'étranger durant cette période. Donc ça a eu l'effet d'une... Bah, c'était une petite goutte d'eau, quoi. On en avait entendu parler, on connaissait certaines images qui ont effectivement traversé les continents. Mais à part ça, il n'y a pas eu un vrai phénomène comme il s'est passé avec l'affiche polonaise, où là, il y a vraiment eu une école qui a reçu des graphistes du monde entier et qui a appris voilà, sa spécificité.
Oui, qui a eu une influence énorme sur l'affiche de manière générale dans le monde, on va dire. Comment était régulée l'affiche par l'État ? C'est-à-dire, quelle était la vraie liberté des dessinateurs dans ce qu'ils produisaient en tant que dessin, mais aussi dans le sens qu'ils mettaient dans leurs affiches ? Est-ce que c'était très contrôlé ou pas ?
Oui, en fait, non, il n'y avait pas de restriction. La seule restriction qu'il y avait, ça c'est une citation de Félix Beltran, il disait... Du moment que les images ne critiquent pas la révolution, elles peuvent être publiées. Donc il n'y avait pas vraiment de censure ni de contrôle sur les publications.
Cubanita primorosa, juguetón y deliciosa. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana. Con su suave movimiento, tan ligeros como el viento. Que me excita y me fascina, que me lleve y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa. Como el beso de una moza, juguetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arremata esta zampa que me roba el corazón.
Bossa nova, Uba, bossa nova, nova.
Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana. Con sus suaves movimientos tan ligeros como el viento. Que me excita y me fascina, que me lleve y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa. Como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón.
Radio Campus Paris 93.9, vous écoutez Le Gratin, donc une émission qui est consacrée à l'affiche cubaine. Donc là, on vient d'écouter encore un groupe cubain qui s'appelle Los Zafiros, donc Bossa Cubana, donc une production des années 60. Voilà, donc toujours en compagnie de Régis Léger. Et donc bah là, on en arrive un petit peu à la période spéciale, donc ce qu'on appelle la période spéciale. Donc en gros, l'argent de l'URSS n'arrive plus à Cuba. Donc, en plus, il y a le blocus américain et il n'y a plus d'argent de l'URSS. Donc, le pays rentre dans une période de récession, on va dire, de grande pauvreté. Et la production d'affiches va commencer aussi à s'amenuiser sérieusement.
Totalement. C'est une période assez traumatisante hein, pour les Cubains. Et pour la jeune génération que j'ai fréquentée, c'est vraiment des souvenirs assez difficiles. C'est-à-dire qu'ils me parlent de la période spéciale comme quelque chose de spécialement marquant dans leur enfance. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus à manger, carrément. Il n'y avait plus de quoi se laver. Il y avait de l'électricité qui arrivait une ou deux heures par jour. Également, l'eau, ça devenait rare. Voilà, c'était une période vraiment très, très compliquée à gérer. Et aussi pour le gouvernement cubain, puisque tous les pays de l'URSS commencent à tomber. On se demande ce qui va se passer à Cuba, est-ce que le gouvernement va rester en place ou non. Et du coup, il y a un doute qui s'installe auprès de la population, savoir qu'est-ce qui va en devenir, quel futur. Est-ce qu'on va redevenir américain ou alors où on reste cubain. Enfin, voilà. Donc c'est une période assez compliquée à gérer. Et comme tu le disais, en termes de production d'affiches, c'est une période où tout va s'arrêter, plus ou moins. C'est vraiment une période noire, un trou en fait, dans l'histoire du graphisme cubain, où il va y avoir une production qui va être de l'ordre de zéro. Quoi. Et tous les graphistes qui travaillaient avant pour la révolution cubaine partent, ou alors tombent dans l'anonymat puisque plus de travail, donc ils se reconvertissent en autre chose. Et du coup, c'est l'arrêt de cette tradition, puisque même les graphistes qui étaient présents et qui restent à Cuba ne transmettent plus, puisqu'il n'y a pas d'institution qui permet d'enseigner cet art de l'affiche. Il n'y a plus le matériel pour imprimer, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'encre qui arrive dans les ateliers, il n'y a plus de papier, ou alors il y a de temps en temps du papier, mais il faut aller le chercher à la boucherie.
Donc on utilise des papiers un peu spéciaux.
Spéciaux, ouais, on prend ce qui passe. Des fois on imprime avec de la peinture de bâtiment, avec ce qu'on trouve on fait, et quand on trouve pas ben on fait pas, et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années.
D'accord, et qu'est-ce qui va faire que après cette tradition va un petit peu renaître plus récemment?
Ça va mettre beaucoup de temps. Comme je te disais, il y a l'arrivée de cette école, l'ISDI, qui a été créée en 86, je crois, mais les premiers étudiants sortent réellement en 89 et tombent littéralement dans cette crise. Sont, comme je te le disais tout à l'heure, pas vraiment formés au graphisme traditionnel, mais plus à un graphisme commercial, on va dire. Et tout ça, ça va mettre du temps, parce que les institutions ont perdu l'habitude de travailler avec des graphistes. Il va falloir attendre 99. 99, c'est vraiment en fait le changement dans la tête des gens, dans la mentalité aussi des institutions, c'est-à-dire qu'ils vont se retourner à nouveau vers ces jeunes qui sortent de cette école et qui se retrouvent sans travail, qui sont un peu abandonnés à eux-mêmes, et essayer de construire quelque chose avec ces graphistes. Donc au début, vu qu'il n'y a pas de moyens, ça va être des concours d'affiches. Et bizarrement, les affiches ne vont pas être imprimées, quoi. On va en sélectionner une et puis on va l'imprimer, ou alors des fois on les reproduit sur des feuilles A4 qu'on tire sur des imprimantes et puis on expose ça dans une galerie. Voilà, on trouve des solutions qui ne sont pas vraiment adaptées au domaine, mais en tout cas on essaye de faire vivre et de maintenir cette tradition en place. Et l'ICAIC, ça va être une des premières institutions qui va retourner vers les graphistes.
Donc l'ICAIC, je rappelle, c'est l'institution qui s'occupe des affiches de cinéma.
De cinéma cubain, c'est ça. Puis comme je te le disais, une des premières réformes qui va être mise en place après la période spéciale, ça va être l'ouverture de Cuba au tourisme. Donc avec l'arrivée d'un tas de nouveaux besoins, et puis des objets à vendre pour les touristes qui sont de passage, dont notamment quelques affiches. Donc on se remet à réimprimer des anciennes affiches, et puis petit à petit...
Donc ces affiches vont continuer à circuler ?
Elles continuent à circuler, ouais. Aujourd'hui, quand on va à Cuba, on peut acheter des... Alors, c'est des retirages, hein, c'est plus les tirages d'époque, mais c'est toujours imprimé de la même manière. C'est-à-dire que l'ICAIC possède ses propres ateliers d'impression et imprime à la main, comme c'était le cas en 59. Toujours les mêmes ateliers, les mêmes imprimeurs, un peu plus vieux, mais avec la même technique, qui est unique au monde, puisqu'en fait, qu'il manque de matériel, c'est-à-dire de produits photosensibles, c'est-à-dire qu'ils collent des feuilles sur l'écran directement pour imprimer. C'est un peu technique, mais pour ceux qui savent, c'est super, super compliqué parce qu'en fait, il faut découper l'affiche au scalpel. C'est-à-dire que c'est les imprimeurs qui vont découper couleur par couleur l'affiche au scalpel pour ensuite coller cette plaque, c'est une plaque très, très fine, sur l'écran de soie pour ensuite passer la couleur et imprimer sur la feuille.
Et le faire autant de fois qu'il y a de couleurs, du coup.
Exactement. Et des fois, ça peut atteindre jusqu'à 10, 15 couleurs.
Dans ton livre, tu parles d'affiches où il y a 30 couleurs.
Ouais, ça, c'est le maximum.
Bon, c'est
le maximum,
c'est un petit peu le record. Mais...
c'est un graphiste qui se fait détester des imprimeurs. J'ai croisé son imprimeur la dernière fois que je suis allé à La Havane. Il m'a fait « Ah ouais, non, c'est un René Médérol, je m'en rappelle de cette affiche.
» Ouais, non, mais c'est pour dire qu'il y avait aussi cette liberté de pousser jusqu'au bout de certaines logiques.
Bah, c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que dans le domaine notamment de la politique et de la recherche plastique, il n'y avait pas vraiment de fin. C'est-à-dire que vu tout était subventionné par l'État, et encore aujourd'hui dans les ateliers d'artistes, les ateliers d'État, il n'y a pas vraiment de contraintes. S'il y a du matériel et si tu as une idée, tu peux la faire. Et qu'importe s'il y a 15 couleurs et puis de passage en litho, enfin... Non, si tu as envie de le faire, tu le fais.
Mais comment alors maintenant, concrètement, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle produit ses affiches et comment on peut les voir? En dehors du livre, évidemment, qui en reproduit quelques-unes.
faut aller à La Havane.
D'accord, ok.
Non. Ce que je disais, petit à petit, en fait, les institutions ont repris goût à travailler avec des graphistes. Bon, et puis économiquement, ça se passe un peu mieux que dans les années 90. Donc, il peut y avoir certaines commandes. Et puis, il y a l'arrivée du dollar dans les années 93 qui va beaucoup changer les choses. C'est-à-dire que, même si on ne veut pas le reconnaître, mais c'est quand même des apports capitaux étrangers. Et les graphistes, je crois, vont pouvoir travailler en fait, avec l'étranger quelques années plus tard. Et du coup, en fait, recevoir de l'argent qui vient d'ailleurs. Donc, avoir un apport qui vient d'un autre pays, c'est toujours un plus à Cuba. Et il y a beaucoup de familles qui vivent avec des sous qui viennent d'émigrer cubains aux États-Unis.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens s'exilent, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est
une des grosses réalités de l'île, c'est-à-dire les talents s'en vont dans d'autres pays d'Amérique latine, en Espagne.
Voilà, et la famille envoie un peu d'argent à Cuba pour que la famille puisse vivre sur place. C'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé aussi avec les graphistes.
D'accord, oui, parce qu'il y a l'interview d'un graphiste, c'est Nelson Ponce, qui parle de ça, et il dit à chaque fois que je crée un collectif, et ça se finit toujours de la même manière. Les gens s'en vont à l'étranger, au Mexique, en Espagne, et puis le collectif est dissous et je suis obligé d'en remonter un autre.
Ouais, mais ça c'est vraiment une triste réalité. C'est un peu la bête noire de la nouvelle génération de Cubains. Moi par exemple, cette année, sur tous mes amis, il y en a deux qui sont partis vivre aux États-Unis. Et c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, tant qu'économiquement ça n'ira pas mieux, parce qu'ils ne partent pas pour des raisons politiques, ça faut bien le préciser, c'est pas l'argument principal, c'est économique, c'est un moment, ces gens ont envie d'en sortir, c'est qu'au bout de 5, 6, 7 ans d'études, ils ont envie d'avoir un travail, et à Cuba, économiquement, ça ne fonctionne pas, et il y a plus d'étudiants que de demandes. Par exemple, l'ISDI produit, je crois que c'est 150 élèves par an, 150 graphistes pour un pays de 11 millions d'habitants. Et c'est aberrant. Il n'y aura jamais assez de travail pour tout le monde. Et malheureusement, ces étudiants sont contraints aussi de partir s'ils veulent vraiment pratiquer ce qu'ils ont envie de faire. Mais après, il faut voir le positif qu'il y a.
Oui, justement, j'allais te demander, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de conclure sur une note un peu plus positive?
Mais bien sûr. Bien sûr, parce que c'est une génération incroyable qui, justement, s'est tirée de ses contraintes énormément de créativité. Et puis, c'est des gens qui ont, un plaisir de vivre incroyable et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Qui sont prêts à tout pour continuer cette tradition et prolonger cette tradition de l'affiche cubaine. Et puis il y a des gens aussi qui suivent dans les institutions, qui sont sensibles à ça. Et tout ça est en train de changer. Là depuis 2 ans, les ouvertures vers l'étranger sont plus faciles. Je dis pas que j'en suis l'un des précurseurs, mais j'ai quand même pu faire venir quelques graphistes cubains en France. Et puis grâce à ça, ils ont rencontré d'autres personnes et puis ils ont commencé à voyager. Et voilà, il y a des gens qui n'étaient jamais sortis du territoire qui commencent à voyager à travers leur création. Et donc ça, c'est lié à plusieurs choses. Hein. C'est lié à l'émergence de ce graphisme, à la reconnaissance d'une nouvelle génération qui arrive sur le marché international, c'est-à-dire qui est présente maintenant dans les festivals, dans les concours, dans les biennales de graphisme, qui ne l'était pas auparavant. Et puis à l'ouverture politique du gouvernement cubain.
Voilà, cette émission s'achève. Donc, je vais rappeler les références. Donc, tout d'abord, le livre, donc, c'est Cuba Grafica. Ça coûte 34€ et c'est édité par la maison d'édition L'Échappée. Sur mon blog lesinfos.com, vous pourrez retrouver toutes les informations ainsi que des images de certaines affiches. Voilà, donc sur le site radiocampusparis.org, vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger. Bah, merci Régis Léger. Aussi, tu officies sous le nom de Dugudus, donc ça, c'est ton nom de graphiste.
C'est ça, c'est mon nom de guerre.
Exactement, donc Dugudus.fr, donc on peut voir ta production graphique et on peut aussi suivre via ton blog s'il se passe des choses autour de l'affiche cubaine. Et bah, merci Antoine aussi qui a réalisé l'émission. Et le mois prochain, donc ce sera une émission qui sera consacrée au Cyclope. Donc je vous dis pas ce que c'est, rendez-vous le mois prochain. Merci, au revoir.
Merci. Dimmy, you fall.